Congolaises, Congolais, voici un message concernant la révision du fichier électoral. Quelles sont les personnes concernées par cette opération?
Toutes Congolaises ou Congolais en âge légal et en droit de voter. Les personnes majeures de 2011, c'est-à-dire nées au plus tard le 30 juin 1993. Les membres des familles des personnes décédées afin de demander leur radiation de la liste électorale. Attention, pour voter aux prochaines élections, les anciennes cartes ne sont plus valables. Il faut avoir la nouvelle carte d'électeur qui vaut aussi carte d'identité provisoire.
J'ai ma nouvelle carte d'électeur. Je voterai. Et toi?
Beaucoup d'enfants malnutris ne sont pas correctement pris en charge, tant sur le plan médical que nutritionnel. Conséquence, des cas fréquents de décès d'enfants de moins de 5 ans enregistrés dans certains coins du pays à tout moment. Les derniers en date, c'est les décès la semaine dernière à Gbadolité de 4 enfants malnutris en l'espace d'une semaine. Quels aliments pour prévenir la malnutrition et quels soins appropriés aux enfants souffrant de la malnutrition? Nous en parlons avec professeur Bameya, médecin directeur du programme national de nutrition qui est déjà dans ce studio. Et nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez également nous faire parvenir vos préoccupations par rapport à cette question en composant les 081-890-63-94. Vous avez peut-être des enfants malnutris et vous n'arrivez pas à déceler les causes. Pourquoi un tel état métabolique est survenu dans la vie de votre enfant ou peut-être un enfant qui est né comme ça. Voilà, vous vous posez pas mal de questions. Le professeur est là, spécialiste, expert en la matière, et pour nous orienter. 081, nous vous le rappelons, 890-63-94 pour les appels. Et si vous voulez nous écrire, écrivez-nous à service@radiocapi.net. Professeur, nous sommes avec vous. Lorsque l'enfant devient malnutri, il y a un changement physiologique et métabolique qui s'est produit en lui. Et qu'est-ce qui serait concrètement à la base de cette malnutrition chez l'enfant?
Merci beaucoup de votre question. Il faut savoir que la malnutrition, ce qu'on vous dit, c'est un état de perturbation physico-chimique, c'est-à-dire de nutriments dans l'organisme. C'est ça. Et ce qui est à la base, ça dépend des types. Généralement, lorsque ça survient de façon brusque, c'est-à-dire lorsqu'il y a une variation brusque de l'équilibre physico-chimique, physico-nutritionnel dans les corps, l'état tombe dans ce que nous appelons la malnutrition aiguë. Et c'est ça, c'est ce que nous voyons souvent, c'est ça qui tue souvent. Mais cette variation physico-chimique est lente et longue, alors l'enfant tombe dans ce qu'on appelle la malnutrition chronique, et qui se traduit généralement par un amaigrissement qui est difficile à percevoir. Et comme vous avez dit, que vous avez peut-être des enfants mal nourris, et les gens ne voient pas. Mais il faut toujours savoir que si on ne fait pas attention, même la malnutrition chronique débouche sur la malnutrition aiguë et ça peut emporter l'enfant.
Alors, parce que c'est difficile un peu à l'œil nu, et surtout quand on est néophyte ou quelqu'un qui ne s'y connaît pas en matière de pouvoir déceler les signes. Quels sont les signes distinctifs d'un malnutri par rapport à ses camarades bien nourris?
Bon, il faut d'abord, commençons d'abord, comme vous dites, c'est difficile à l'œil nu. Effectivement, c'est difficile à l'œil nu, mais la santé, le ministère de la Santé a fait en sorte qu'on puisse déceler, honnêtement, ce que nous appelons des centres de consultation préscolaires à travers tous les pays. Vous savez, il n'y a aucun territoire, il n'y a aucun secteur où vous n'avez pas un centre de consultation préscolaire, c'est-à-dire là où on peut peser les enfants, prendre leur poids, généralement, à un certain âge. Les parents disent toujours que, bon, amenons l'enfant au kilo. Là, on les vaccine, on prend leur poids. Donc, c'est là le milieu par excellence pour déceler l'état, le niveau de l'état nutritionnel de l'enfant. Alors, c'est si on amène l'enfant là-bas, on peut déceler, certainement.
Alors, quels sont les signes?
Bon, les signes, généralement, la malnutrition à l'œil nu ne se traduit que par un amaigrissement. L'amaigrissement, c'est-à-dire diminution du poids. Cette diminution peut être brusque. Et là, c'est ce que nous appelons la malnutrition aiguë. Et c'est souvent à la suite des épisodes d'infection qui surviennent de façon brutale, ou bien des privations alimentaires qui surviennent aussi de façon brutale, comme hein, dans certaines circonstances, les guerres, les calamités naturelles, des accidents.
Et ça, on peut le remarquer facilement si normalement les parents suivent correctement les profils vaccinaux, le calendrier vaccinal.
Oui, ça, on peut facilement remarquer si on suit le calendrier vaccinal, c'est-à-dire si on amène régulièrement l'enfant au centre de consultation préscolaire. Il y a une courbe qu'on donne, il y a une fiche dans laquelle on trouve un graphique et on dessine que la courbe de l'enfant sur ce graphique-là. Et des parents qui sont attentifs à l'évolution de la santé de l'enfant peuvent le remarquer facilement. On va voir que la courbe diminue de façon brusque ou ça progresse normalement. Et là, ça doit constituer pour eux un signe d'alerte.
Alors, il peut également arriver qu'un enfant naisse dans cet état?
Oui. Disons que tout commence au niveau de la grossesse, pendant la grossesse. Pour prévenir la malnutrition, tout commence à partir de là. La maman qui se sent ou bien qui remarque qu'elle est enceinte doit normalement bien manger. Il y a une alimentation, ce qu'on appelle l'alimentation saine, variée et équilibrée. Elle doit bien manger et là encore, c'est dans le centre de consultation prénatale que la maman commence à s'alimenter. Ou bien, bon, une maman qui mange normalement bien, naturellement bien, peut s'alimenter très bien pendant la grossesse. Donc, à ce moment-là, déjà, l'enfant, on met des réserves à disposition de celui qui va naître, l'être qui va naître. Et à ce moment-là, l'enfant naît avec un poids qui est supérieur ou égal à 2500 grammes. Donc, tout enfant qui naît avec ce poids supérieur, c'est un enfant en danger et qui doit être bien surveillé. Ça, c'est donc le premier signe de la malnutrition, c'est ça, le poids inférieur à 2500 grammes lors de l'accouchement. Là, c'est un signe déjà prémonitoire. Pendant l'accouchement, il y a une alimentation naturelle qu'on appelle l'allaitement, allaitement maternel. Et cet allaitement-là doit être conduit de façon exclusive, c'est-à-dire que la maman ne doit pas avoir peur qu'elle soit dans une zone où il fait très chaud, rappelons même que chez nous, il ne fait pas aussi très chaud comme au désert. Et dans les déserts, les recherches prouvent que l'alimentation, l'allaitement exclusif est possible et prévient toutes sortes de malnutrition chez l'enfant. Et à fortiori chez nous, l'alimentation est possible. Donc, on ne doit pas se laisser influencer par des petites variations de température que nous avons et qui sont d'ailleurs inférieures à 40, puisque l'allaitement exclusif se donne même dans les milieux supérieurs à 40, comme dans les déserts. Donc, ça se fait de 0 à 6 mois.
081-890-63-94, c'est pour les appels.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Papy Service.
Professeur Bameya, vous êtes médecin directeur du programme national de nutrition, prenant en sigle, mis à part une mauvaise alimentation chez la maman, qui peut être aussi la cause de cette situation de malnutrition chez l'enfant. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs exogènes qui peuvent également influencer cet état? Et je parle notamment des frustrations, des stress, qui peuvent être survenus suite à d'autres problèmes qui peuvent influencer même l'état de l'enfant.
Oui, ça c'est sûr, l'alimentation, c'est le facteur déterminant, mais ce n'est pas le tout. Il y a encore d'autres facteurs qui interviennent. Il y a l'état de santé de l'enfant, de la maman pendant la grossesse. Une maman qui est peut-être, vous voyez, qui est diabétique, hypertensive, diabétique, là, elle risque de faire des enfants à l'autre extrême, des enfants extrêmement gros, qui présentent aussi des problèmes. Une maman qui a une hypertension artérielle risque de faire aussi des enfants avec un sous-poids de moins de 2500 grammes. Et puis, il y a toute une série des états infectieux. Une maman qui fait les palus pendant chaque semaine de la grossesse, tout ça va aussi faire un enfant mal nourri. Donc, c'est une maman anémique. Une maman qui a des vers intestinaux va aussi faire des enfants qui ne sont pas en bon poids. Donc, il y a toute une série de facteurs ajoutés à cela, à une certaine mesure, des facteurs psycho C'est quoi logique, hein? Vous voyez, chez nous, une maman qui n'est pas bien traitée entre guillemets par son mari pendant la grossesse, bon, est-ce que lui tombe dans certains états qui l'empêchent de manger, qui l'empêchent de se concentrer, et tout ça, ça a des répercussions sur la santé du début de conception, la santé, et ça se remarque pendant l'accouchement.
Voilà, nous avons Norbert Dibelaï de Kadanga. Bonjour Norbert.
Bonjour Ndembo, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi, bonjour aussi à l'invité. Je vais juste poser des questions à l'invité. La première question est celle-ci. Vous voyez, en ce qui concerne les villageois qui sont au village, vous savez, les aliments qui sont au village, il y a que des feuilles de manioc, des feuilles de patates douces. Les enfants qui sont mal nourris, mais comment ces enfants-là peuvent aussi récupérer la santé, hein, peuvent avoir une bonne santé? Deuxième question. Quand l'invité veut parler de, disons, je vais d'abord savoir quels sont les aliments qu'on peut préparer pour les enfants qui sont mal nourris chaque matin. Donc, qu'il me donne un programme. Si, parce que nous avons un enfant à nous qui n'est pas bon santé chez nous, là, mais on sait tout ce qu'on fait, on peut lui donner les aliments, là, dans une boîte. Il y a que ça. Bon. Qu'il me donne un peu un programme. Comment est-ce qu'on peut nourrir cet enfant-là? Le programme, matin, midi et soir, quels sont les aliments? Donc, c'est de cette façon-là que je vais demander à l'enfant. Merci beaucoup.
Voilà, merci Norbert. Nous tournons du côté de Serge Mwamba qui nous appelle de Guémena. Bonjour Serge.
Bonjour Jérémy. Je voulais poser certaines questions à l'invité. Ici à Guémena, j'aimerais savoir, est-ce que la consommation de notre aliment communément appelé foukou, est-ce que pour la nutrition des enfants, quand je parle de foukou, on moule les maïs et puis on les mêle avec de manioc non moulé, c'est ça. Alors, je voudrais savoir quels sont les signes patrimoniaux qui trouvent de la manipulation de l'enfant. Et puis, si je te parle aussi de la manipulation de la présence chez la maman qui est en grossesse, et je voudrais savoir, puisque certaines mamans choisissent des aliments pendant la grossesse, est-ce que qu'est-ce qu'il faut faire et comment on peut les prévenir?
Ben voilà, vous avez là un professeur de questions très pertinentes. Hein. La première, c'est celle de Norbert Dibelaï, de Kananga, qui parle des feuilles de manioc, et également des aliments par rapport au programme national, le programme nutritionnel, que disons les programmes que vous dirigez. Est-ce qu'il y a un programme des aliments appropriés? Donc il y a toute une liste. Et puis Serge Mwamba qui parle de la consommation des coucou. Est-ce que c'est juste pour les bébés? Voilà, en gros, pour résumer leur intervention.
Oui, je dois d'abord apaiser M. Norbert Dibelaï de Kananga. Quand il parle de feuilles de manioc, ça me semble, il me semble qu'il en parle avec un aspect plus ou moins péjoratif. Loin de là, il doit connaître que les feuilles de manioc constituent des légumes les plus consommés en RDC actuellement, et sans tendance à devenir, dans les 5 ans à venir, des légumes les plus consommés de l'Afrique noire. Alors, les feuilles de manioc sont très très riches en protéines. Hein, vous avez sur 100 grammes, vous avez 100 grammes de feuilles, vous avez plus ou moins 12 à jusqu'à 15% hein, de protéines. Donc, il y a des rares légumes qui arrivent à ce niveau-là. Et si vous voyez très bien, beaucoup d'enfants dans les villages grandissent humiliés, hein, en consommant ces feuilles de manioc. Mais le problème qui arrive, c'est quoi, hein? Le problème actuellement est qu'on consomme les feuilles de manioc, mais comme j'ai dit, d'un côté, l'état environnemental, hein, l'état autour de nous, hein, de nos habitations, de là où nous passons, c'est un état qui est pratiquement un état d'insalubrité qui laisse à désirer. Alors, il se fait que tout en consommant les feuilles de manioc, et l'enfant tombe souvent malade, il fait souvent le paludisme, il fait souvent la diarrhée, il fait souvent, comme nous voyons maintenant, la fièvre typhoïde. Et ce sont ces états-là qui précipitent l'enfant dans la malnutrition. Mais ce ne sont pas les feuilles de manioc. Les feuilles de manioc est bien préparé et contribue à améliorer l'état de l'enfant, hein, puisque ça contient beaucoup de protéines. Bon, les feuilles de patates douces, comme il l'a dit, sont des feuilles riches en fer. Et ça contribue aussi à protéger l'enfant contre la malnutrition. Donc, là, il n'y a pas d'inquiétude. Il a parlé de ce que...
Le programme, oui. Est-ce qu'il y a des aliments oui. retenus par le programme?
Bon, il y a des aliments qui sont retenus par le programme, qui sont dans une... dans un livret qui a été élaboré par les programmes que nous appelons les recettes congolaises. Il est à Kananga, il n'a qu'à consulter notre bureau qui se trouve au niveau de Kananga, le bureau du Pronanit à Kananga, et je crois qu'il va trouver. Ce manuel est là des recettes congolaises. Mais le grand problème, ce n'est pas ça. Nous devons savoir au Congo que tout ce que nous mangeons, généralement, est bon. Mais le problème qui est là, c'est la façon de préparer et la façon de manger. Vous pouvez bien manger chaque jour, préparer chaque jour de la viande, mais quand cette viande-là est mal distribuée dans la famille, certaines personnes qui ont, je ne sais pas quoi, se tapent des gros morceaux au profit, surtout de la population vulnérable que sont les enfants et les femmes, vous comprenez que même tout ça, ça ne peut pas avoir une influence. Donc le problème, ce n'est pas tout ce que nous mangeons est bon, mais si on les mange de façon, comme j'ai dit, variée, ça peut conduire à un bon état nutritionnel. Donc là, il n'y a pas d'inquiétude.
Alors, il y a Serge Momba de Guémena hein, qui a parlé de la consommation de foufou. Hein.
Oui.
Voilà, donc qu'est-ce que vous lui répondez?
Bon, le foufou qui est préparé à la Guémena, qu'on appelle le foufou, comme il a dit, c'est un foufou qui est tout à fait valable. Hein, il résulte de la coupure de manioc en petits morceaux,
oui.
De manioc non roux. Mais c'est cependant longtemps au soleil. Et c'est considéré aussi une méthode de détoxification des manioc. Donc c'est un foufou qui n'a pas de problème, hein, qui n'a pas de problème quand il suit certains états, puisque au programme, nous avons répertorié ces foufous, on l'a étudié, mais quand c'est bien fait, ça ne présente aucun risque pour la santé. Mais quand c'est mal fait, alors ça garde encore certains facteurs de glycosidique qui peuvent entraîner des boîtes qui peuvent entrer en compétition et altérer aussi l'état nutritionnel. Donc, quand c'est bien fait, comme toujours, hein, c'est ça le problème, ça ne pose pas de problème.
Donc, à en croire vos propos, docteur, la malnutrition est bien entendu une maladie.
Effectivement, la malnutrition, c'est une maladie. Hein, quand c'est une maladie et qui doit être soignée.
Et qui peut être aussi guérie.
Et qui, oui.
Et qui, donc,
on peut guérir la malnutrition.
Oui. Alors, l'OMS et l'UNICEF parlent tantôt de la malnutrition sévère. Et de quoi s'agit-il?
Quand on parle de la malnutrition sévère, on veut tout simplement dire que c'est un état qui atteint une certaine gravité, qui mérite une attention. En tout cas, particulière, sinon l'enfant meurt. Et probablement, les cas que vous avez évoqués au début sont dus probablement à des cas de malnutrition sévère. Et puisque les autres formes de malnutrition qui ne sont pas sévères, bon, généralement, nous vivons avec des enfants mal nourris dans nos quartiers un peu partout. Mais c'est quand ça devient sévère, à ce moment-là, les parents s'aperçoivent et les amènent à l'hôpital.
081-893-94, c'est pour les appels.
Découvrez les après-midi de Radio Scapie de lundi à vendredi à partir de 13h. Des recettes, des reportages sur la vie quotidienne, des paroles d'enfants, des rubriques femmes et des maladies zigzag. Et enfin, un brin de culture, c'est en découverte. Un rendez-vous Radio Scapie pour les après-midi promeneurs. Découverte, de lundi à vendredi, à partir de 13h, heure de Kinshasa, avec Nico Fouzianguela.
Magui Malou de Kananga, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Alors, quelle est votre préoccupation?
Ma préoccupation est qu'il y a de certains enfants qui sont bien nourris, qui mangent bien, mais vous voyez, l'enfant, la santé, elle est donc. Donc, sa santé n'est pas en bonne et due forme. Elle mange et sa maman peut faire tout pour que l'enfant puisse manger. On lui donne des nourritures, mais elle n'a pas une bonne santé. C'est dit à la malnutrition, mais c'est dit peut-être à certaines maladies.
Voilà, alors nous avons également Christian Mundredi de Kananga également. Bonjour Christian.
Bonjour monsieur le journaliste.
Et quelle est votre préoccupation?
Ok, ma question est celle-ci. Il y a un enfant qui était né avec 2800 grammes. Et 7 mois après, sa mère a confirmé pour sa vie une nouvelle grossesse indésirable, bien sûr. Mais progressivement, la santé de cet enfant a commencé à changer. Cela a dû à quoi? À la malnutrition ou bien? Je ne sais pas, des facteurs médicaux qu'on ne connaissait pas. Et c'est pourquoi je demandais, monsieur. Donc j'essaie de nous répondre un peu, c'est là et dire quoi.
Merci à Magui, et merci également à Christian, et un coucou particulier hein, à tous ceux qui nous suivent à partir des Kananga, parce que nous savons qu'ils sont nombreux, qui sont fidèles à cette à ce programme, à cette tranche Okapi Service. Nous sommes de cœur avec vous. Et là, nous avons dans ce studio professeur Bameya, médecin directeur du programme national de nutrition. Je reviens avec la question de Magui, qui parle des enfants qui mangent bien, mais puis finalement, l'enfant ne prend jamais du poids. Est-ce que c'est dû à quoi concrètement?
Oui, comme j'ai dit, l'alimentation c'est un facteur déterminant de l'état nutritionnel de l'enfant, mais ce n'est pas le tout. Il y a d'autres facteurs. Les enfants qui mangent bien, qui ne prennent pas du poids, il faut voir est-ce qu'ils n'ont pas un palier caché, hein, puisque actuellement le Congolais se promène avec un palier sans le savoir. Bon, est-ce qu'il n'y a pas une autre maladie qui est cachée? Donc, si l'enfant, en dehors hein, de ce qui est alimentation, hein, si l'enfant est vraiment sain, l'alimentation doit déclencher plutôt une bonne croissance. Donc, c'est ce qui arrive souvent, on voit l'alimentation, mais on oublie de faire vacciner hein, l'enfant pour qu'il puisse bien grandir, avoir des anticorps, se protéger contre les maladies. On oublie de faire attention à l'état psychologique de l'enfant. C'est très important. Hein. Vous devez suivre l'état psychologique de l'enfant. On oublie de voir là où l'enfant joue, là où l'enfant dort, là où l'enfant, quel type d'eau l'enfant boit. Donc, tous ces facteurs-là sont très importants pour, ensemble avec l'alimentation, concourir à une bonne croissance de l'enfant, c'est-à-dire une augmentation permanente du poids de l'enfant qui se traduit par ce que nous disons, l'enfant grandit bien.
Il y a Christian Mouzadi qui a parlé de non-espacement des naissances qui peut être aussi à la base le cas qu'il a donné là.
Oui, certainement. Il a parlé d'un enfant dont la maman a conçu lorsque l'enfant avait 7 mois et brusquement il croit que l'enfant diminue du poids, comme il a dit, ne grandit pas bien. Alors là, c'est une négligence ou bien une perte de la maman. Généralement, une grossesse qui survient pendant que notre enfant allaitait encore n'est pas un motif de cesser d'allaiter l'enfant. La maman aurait pu continuer l'allaitement tout en ayant sa grossesse sans problème.
Et on a toujours réflexe à pouvoir rejeter l'enfant à lui donner.
Voilà, c'est un réflexe que nous qualifions dans le programme, nous qualifions ça de culturel. Le Congolais pense toujours que, écoutez,
l'enfant va les sangas.
L'enfant va avoir les sangas. Et on se sent un peu coupable. On voit que non, j'aurais pu peut-être faire en sorte que je ne conçoive pas pendant que l'enfant est encore sous allaitement, mais l'enfant conçoit. Alors, il faut que je cesse tout ça, mais pendant ce temps-là, l'enfant a besoin du lait de la maman et l'enfant tombe en malnutrition. Donc, c'est un peu là une malnutrition. Bon, peut-être le mot n'est pas bien utilisé, l'immersion de négligence de la maman. Pas négligence puisqu'elle a eu une grossesse, mais négligence de l'alimentation de l'enfant.
Peut-être l'ignorance aussi.
Mais ignorance, exactement.
Il faudrait quand même une sensibilisation des parents qui parfois, souvent le réflexe de pouvoir éjeter cet enfant quand il se retrouve dans cet état qu'on voulait appeler de culpabilité.
Oui, et souvent on cache aussi le problème au lieu d'aller voir des pédiatres, d'aller voir des personnels dans les centres de santé, dans les centres de consultation prénatale et même les préscolaires, pour leur expliquer, on cache un peu, on se croit coupable, qu'on a mal fait.
Et pourtant,
et on finit l'enfant alors que ce n'est pas, c'est tout à fait naturel.
C'est pourquoi on demande toujours au couple de pouvoir assister au programme de santé de reproduction.
Voilà.
Et suivre un peu l'éducation familiale pour connaître un peu comment les techniques à apprendre pour se préserver et pour protéger aussi les enfants. Nous allons peut-être terminer avec deux petites questions. Nous prenons la réaction de Martinez Moussa de Walikale. Bonjour Martinez. Alors Jean Delacroix, vous êtes à Baraka. Bonjour.
Bonjour, Jérémy Lungembo.
Alors, merci beaucoup. Quelle est votre préoccupation?
Oui, j'ai deux préoccupations. La première préoccupation, ici chez nous à Baraka, à une certaine période, les mamans enceintes recevaient deux fois par semaine les aliments nutritifs pour nourrir les futurs bébés. Mais il arrivait des fois, ces mêmes mamans mettaient au monde les enfants de moins de 2 kg. Alors la question, qu'est-ce qui peut être à la base de ce phénomène? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, j'aimerais connaître, est-ce que la malnutrition être une malédiction.
Voilà, merci Jean Delacroix pour cette intervention. Nous prenons Martinez Moussa de Walikale. Bonjour Martinez. Bonjour Martinez. Et voilà. Alors nous restons à la réaction de Jean Delacroix qui parle de Mama qui recevait par deux fois, d'ailleurs par la semaine, en semaine, des aliments. Mais les enfants naissaient toujours avec un poids inférieur à 2 kilos.
Oui, ça arrive. Comme j'insiste que l'alimentation, c'est le facteur déterminant, mais ça ne constitue pas un tout. Hein, la maman qui reçoit deux fois des aliments nutritifs, il y a des programmes un peu partout dans les pays hein, pour ça. Cela signifie que ces mamans-là sont des mamans à risque de malnutrition. Et bon, quand on est à risque de malnutrition, c'est dans une famille, il faut savoir que c'est aussi une famille qui a des problèmes peut-être de s'alimenter, une famille qui a une certaine pauvreté, et tout est permis. Donc, il n'est pas d'abord, hein, il n'est pas, on ne peut pas affirmer ici que tout en recevant les aliments qu'on donne, qu'on les consomme. Puis c'est souvent ces mamans qui reçoivent des aliments, les vendent pour avoir un peu de moyens hein, de faire autre chose. Hein, puisque dans la vie, ce n'est pas toujours la nourriture, mais il y a aussi d'autres choses, les soins médicaux, l'éducation des enfants et tout ça. Ça, c'est un. Et puis, même si les enfants naissent avec un poids moins de 2 grammes, c'est comme j'ai dit, hein, ces enfants, ces femmes, là sont des femmes à haut risque, leur état nutritionnel, d'abord, est préoccupant, et leur état social aussi, c'est préoccupant. Et ils dorment où? Est-ce qu'ils utilisent la moustiquaire imprégnée d'insecticides? Non. Est-ce qu'elles ne font pas des diarrhées, ne font pas d'autres maladies? Et donc, ce sont ces facteurs-là. Ce que moi je conseille à M. Martinez, c'est que ces femmes-là devraient être bien suivies. Ainsi, il a le moyen de les conseiller. Et quand il voit des femmes comme ça, c'est bien de les conseiller, à ce qu'elles puissent être toujours. Et respecter toujours des rendez-vous des CPN partout pour qu'elle puisse éviter ces genres de choses.
Professeur Bameya, médecin directeur du programme national de nutrition pour la nuit, nous allons peut-être revenir parce qu'il est en ses dépôts. On va revenir hein, en détail sur la prise en charge nutritionnelle. Quelle est la thérapeutique à donner à ces enfants qui sont malnutris? Merci d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, pour aujourd'hui, on s'arrête là et à très bientôt.
Ok, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.
Au Capitaine.
Radio Capi, Radio Capi.
Le conseil du jour.